Amen. Alléluia. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 16. On ne va pas lire depuis le début de la démonstration, parce que vous savez, l'apôtre Paul, il a souvent des grandes phrases, hein, avec une proposition principale et beaucoup de subordonnées derrière. Et nous voulons nous arrêter là, vers la deuxième partie, ou peut-être même la troisième ou la quatrième de ce verset 16, Romains chapitre 4, verset 16. Alors, il nous est parlé de là, aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, c'est là-dessus qu'on va insister, la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Je relis cette dernière partie. « Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Amen. Vous savez, Abraham a reçu de Dieu l'assurance qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Et sa foi dans la promesse a connu des épreuves, je dirais même de grandes épreuves. Vous savez, une promesse, c'est quelque chose qui appelle la foi. Mais à cause de notre mauvaise nature, la promesse va réveiller l'incrédulité. Hein ? Et il y a un combat autour de la promesse divine, c'est ce qui est exprimé, par exemple, dans cette prière prononcée un jour par un homme, « Seigneur, je crois ». « Viens au secours de mon incrédulité. » C'est souvent, c'est toujours d'ailleurs, un moment ou un autre, ce que le croyant va connaître et vivre. Alors nous voyons ainsi que la foi va chercher des appuis, des choses auxquelles elle peut se cramponner, je dirais, quelque part, se cramponner avec confiance. Elle va regarder à Dieu lui-même, elle va regarder à sa parole, elle va considérer les jours, les époques du passé, elle va se souvenir de ses propres expériences, de l'action du Dieu vivant, celle des autres aussi, dont elle a pu être témoin. Elle va lever les yeux vers les montagnes, d'où lui vient le secours. Elle considère les prophéties de l'Écriture. Voilà. Hein, et lorsque la foi a trouvé une vérité qui peut l'aider, eh bien, elle va l'utiliser immédiatement, je dirais, comme un crampon. Hein, comme un crampon, exactement comme Abraham l'a fait dans le cas qui nous occupe maintenant. Le grand problème d'Abraham, c'était quoi ? Le grand problème d'Abraham, c'était la mort. C'était la mort. Hein, donc, la mort était autour de lui, de tous les côtés. Dieu lui avait promis la vie, une vie en abondance, car il devait être le père d'un grand nombre de nations et avoir une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Voilà ce que Dieu lui avait promis. Mais pour ce qui était de devenir un père, son corps était littéralement mort. Il était âgé de 100 ans, comment pouvait-il devenir physiquement le père d'un grand nombre de nations ? Et Sarah aussi, pour ce qui était de devenir une mère, était pratiquement, là aussi, morte sans espoir. Elle avait 90 ans, comment aurait-elle pu donner des enfants à Abraham ? Et plus tard, lorsque Isaac est né miraculeusement, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il lui a demandé de l'offrir en sacrifice. Donc, encore une fois, Abraham voulait accomplir toute la volonté de Dieu et il croyait qu'en Isaac lui serait donné une postérité, et c'est pourquoi il attendait que Dieu le ressuscite des morts. Voilà. Et nous voyons aussi ainsi que la foi d'Abraham reposait sur le pouvoir de Dieu de ressusciter les morts. Et il a trouvé dans cette vérité un fondement de foi tout à fait absolu. Et cette foi s'est heurtée à toutes les difficultés de la position d'Abraham. Il a réfléchi, il s'est dit, mais que faire si mon propre corps est mort ? Dieu peut le ressusciter. Que faire si ma femme, dans ce domaine, est comme morte ? Eh bien, par la puissance de Dieu, elle peut recevoir la vie et donner la vie. Hein ? Et que faire si mon fils, devenu grand, est tué sur l'autel ? Eh bien, celui qui m'a fait la promesse est capable de la tenir, il peut le ressusciter des morts. Vous voyez, la foi d'Abraham était un clou planté dans un lieu sûr. Il connaissait l'Éternel comme le Dieu, comme l'Éternel, Dieu qui peut ressusciter les morts. Voilà. Ça, c'est le premier, premier crampon, dirais-je, de sa foi. Et Abraham en avait un deuxième, d'après notre texte. C'est-à-dire, c'est la puissance créatrice de Dieu. Puisqu'il nous est dit là, le Seigneur lui a parlé de sa postérité comme si elle existait et lui a dit « Je t'ai rendu père d'un grand nombre de nations, comme si ces nations étaient déjà nées. Il avait changé son nom d'Abraham en celui d'Abraham, et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Donc, voyez bien. Mais lorsqu'Abraham rentrait dans sa tente, ben, il n'y avait pas d'enfant pour grimper sur ses genoux, et aucun bébé non plus ne souriait dans les bras de Sarah. « Tu ne m'as pas donné de postérité », était l'humble requête du patriarche, hein, quand il s'adressait à son Dieu. Mais il savait que Dieu pouvait appeler du néant un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel. Il savait cela, car Dieu lui avait dit « Ainsi sera ta postérité », en lui indiquant les étoiles du ciel. Et vous savez ce que c'est que d'appeler quelqu'un qui est à votre service. Vous dites « Je ne sais pas, moi, Marie, la voilà ». Vous avez appelé quelqu'un qui existe. Hein, donc, et cette personne apparaît à votre appel. Mais Dieu, lui, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et les voilà qui apparaissent à son appel. Dieu dit que la lumière soit, et qu'est-ce qui se passe? La lumière fut. Hein. Il dit qu'il y ait un firmament, hein, et voici le ciel bleu qui surplombe toute la terre, et lorsqu'il appelle les poissons, qu'il appelle les oiseaux, qu'il appelle les plantes ou les animaux, ils répondent à son appel, les voilà présents. Voilà, hein, donc, et c'est pour ça qu'Abraham se dit, si Dieu appelle des descendants pour moi, ils viendront. Même s'il n'y a aucun signe que je puisse devenir père, même si d'un point de vue physique, c'est impossible, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, peut appeler une nombreuse postérité pour moi, et cette postérité viendra. Amen. Et nous voyons ainsi qu'à l'heure de l'épreuve, la foi d'Abraham s'est cramponnée à ces deux choses, à ces deux faits, de la résurrection et de la création. Et c'est à cause de cela qu'elle est restée ferme. Et c'est aussi ce que nous voulons considérer pour nous-mêmes aujourd'hui. Dieu a ressuscité les morts. Dieu a créé à partir de rien, il peut donc réaliser toutes les promesses de son évangile. Hein, donc voyons cela, et si ceci est fermement inscrit dans votre cœur et dans le mien, alors nous serons forts dans la foi. Et si nous sommes forts dans la foi, nous serons forts en tout, mes amis, hein, dans l'existence, parce que comme est la foi d'un homme, ainsi il est. Hein, et donc c'est cette réalité-là, et si notre foi apprend vraiment à se reposer sur les promesses de la parole de Dieu, à se confier en sa toute-puissance, alors on deviendra comme Abraham, oui, puisque nous sommes ses enfants, hein, sont par la foi, eh bien nous comme un prince ou une princesse parmi les hommes, et ça amènera une grande bénédiction dans notre vie et dans d'autres vies également. Amen. Alors dans la suite de notre message, nous verrons trois choses. À quel moment faut-il une foi comme celle-là? Première chose. Deuxième chose, quelle est la base de cette foi? Et troisième chose, quelles sont les conséquences, quels sont les résultats de cette foi? Donc en premier, à quel moment faut-il une foi comme celle-ci? Croire en Dieu, même quand les apparences sont contraires. Quand est-ce que c'est le meilleur moment? Alors c'est pas quand tout va bien pour nous, hein? C'est pas que, parce que lorsque nous marchons par la vue, nous ne le faisons pas par la foi. Hein, lorsque une âme est remplie de joie, alors il peut y avoir beaucoup de place pour la gratitude envers Dieu, pour les remerciements, mais pas trop pour la foi, parce que ce qu'un homme voit, il n'a plus besoin de l'espérer. Hein, donc nous savons cela. La meilleure heure pour la foi, c'est minuit, hein, quelque part. C'est dans la nuit que la foi a ses visions. J'irai dans la nuit des ténèbres, des difficultés, des épreuves, ben comme le héros de David, la foi, c'est celle qui va tuer un lion dans un puits, dans une citerne un jour de neige, hein, comme Jacob, elle va combattre avec l'ange toute la nuit, et elle obtient la victoire lorsque la nuit est tombée sur toute la terre. Une foi qui n'est valable que quand le soleil brille, c'est pas grand-chose, hein. Une foi de beau temps n'a pas grande valeur. La véritable foi est une sentinelle à toutes les heures. Hein, donc, qu'on me donne une foi d'hiver quelque part, une foi qui a de la chaleur, de la force en elle-même, lorsque soufflent les vents froids, lorsque soufflent les vents mortels. Alors, quand avons-nous besoin d'une telle foi? Eh bien, on a besoin d'une telle foi peut-être si notre âme se rend compte aujourd'hui de son état de mort spirituelle. Ah oui, peut-être, hein. Si certains parmi nous se disent, mais comment est-ce que je peux être sauvé? Parce que, eh bien, spirituellement, je suis sans Dieu, je suis sans espoir dans ce monde, je pleure sur mon péché, pourtant, je ne réalise pas encore mon péché comme je devrais, je le sais, je crains d'être mort dans mes iniquités, dans mes péchés, et avec le prophète, je demande, ces eaux secs pourront-ils revivre? Et oui, c'est vrai. Et voilà une occasion toute particulière de croire au Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Hein? Maintenant, c'est le moment ou jamais de faire l'expérience de la puissance de résurrection qui est dans le Seigneur Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Alléluia. Et Dieu peut tenir sa promesse de grâce pour toi, même pour toi, hein, donc, parce qu'il est celui qui ressuscite les morts. Si tu crois en Jésus-Christ pour la vie éternelle, tu as la vie éternelle, parce que le Seigneur dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alléluia. Et aussi même si aujourd'hui tu es tellement conscient d'être mort, crois en Christ qui ressuscite les morts, et ainsi tu seras sauvé. Amen. Et puis une autre grande occasion pour la foi, c'est lorsque l'enfant de Dieu craint la mort, au travers, je dirais, quelque part des troubles de son âme. Ça aussi, c'est quelque chose qui a pu nous menacer, qui nous menacera, si ce n'est pas fait encore, un jour ou l'autre, comme David dans le psaume 38, par exemple, « Mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. » Oui, il a connu cela. Il a vécu cela. Hein. Le peu de vie qui reste n'est pas absolument mort aux choses de Dieu, mais c'est une vie tellement faible, tellement vacillante, tellement léthargique. Les anciens péchés, ces anciens péchés se lèvent devant lui pour l'accuser. Et puis tous ces mauvais penchants se manifestent et ils se font jour. C'est comme si Dieu l'avait abandonné, comme si Dieu le laissait périr. Hein. Donc aller aux réunions devient un fardeau, comme tout autre exercice spirituel, et là, dans le secret de son cœur, il s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette chair, de cette nature charnelle qui m'entraîne à la mort ?» Hein, qui m'entraîne à la mort. Et mon frère, ma sœur, si tu es dans une telle situation, eh bien, il y a une promesse pour toi, c'est « Le Seigneur est ressuscité. » Alléluia. « Celui qui croit en lui vivra, même s'il était mort. » Alléluia. Alléluia, quand même il serait mort. Voilà ce que dit la parole de Dieu. « Je donne à mes brebis la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » a dit le Seigneur. Le Seigneur te rappelle cela, et si tu te rappelles toi aussi que Dieu ressuscite les morts, eh bien tu peux croire qu'il va ressusciter ton âme, et puis qu'il va la garder, même aujourd'hui, même dans les plus grandes difficultés. Et je dirais encore un autre grand moment où cette foi peut être manifestée, c'est lorsque la mort menace de nous atteindre, j'irais, par les choses de cette vie. Ah ben oui, parce qu'évidemment, hein, là aussi on peut voir le Seigneur qui ressuscite les morts. Quand on a perdu un être très cher, ou en même temps, eh bien, peut-être quand on a fait de grandes pertes dans les affaires, quand on est attaqué par la maladie, qu'on a des difficultés, des problèmes dans sa propre famille, alors on pouvait peut-être dire comme David, « Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Et si Dieu n'intervient pas rapidement, ce sera la catastrophe. Que faire alors? Eh bien, si vous croyez que les trompettes vont sonner et que les morts vont ressusciter, eh bien, celui qui va ressusciter toutes ces myriades de morts, eh bien, il peut vous délivrer de ces soucis qui vous abattent. Il peut vous délivrer de ces soucis qui veulent vous tuer. Il va vous faire passer au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Alors, ne doutez pas plus longtemps, mais reposez-vous sur celui, sur ce Dieu qui vous donne la vie et il vous délivrera. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia, béni soit son nom. Et il le fera pour vous aussi, c'est vrai. Et puis même s'il y avait la mort dans l'église quelque part, hein. C'est quelqu'un peut se poser des fois la question, hein, lorsqu'il n'y a peut-être pas beaucoup de signes de réveil. Alors là aussi, croyons au Dieu de la résurrection. Vous savez, ceux qui sont charnels, ils se fichent pas mal de la situation de l'Église, hein, de son état spirituel. Mais celui qui aime les choses de Dieu, c'est celui ou celle qui a des aspirations spirituelles profondes, eh bien, il aime l'Église, ou elle aime l'Église. Et puis, je sais qu'il en est parmi nous qui préféreraient subir de grandes pertes terrestres plutôt que de voir la cause de la vérité, plutôt que de voir la cause du Seigneur dans de mauvaises conditions. Alors, lorsque l'Église ploie sous le fardeau, peut-être, je ne sais pas, quand il y a peu de prières, quand il y a peu de communion fraternelle, d'ailleurs pas toujours de la faute des gens, mais des situations, hein, comme on peut les connaître, quand il y a peu de désir de gagner les âmes, et puis que votre cœur est là, que votre cœur en agonie, et que vous sentez là aussi, bah oui, que c'est quelque chose qui vous menace, et que vous sentez que le monde peut-être menace de rentrer dans l'Église, et peut-être les fausses doctrine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où chercher du réconfort? Qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'hommes de foi de reste. Et puis on voudrait aussi, peut-être on se dit, il faut que je tienne bon, que je tienne tout seul. Mais voici que l'esprit du monde est là. Et puis lui aussi, il va essayer de séduire, s'il est possible, même les élus. Hein? Donc ça aussi, ce sont des choses. Mais voilà notre appui sûr. Notre appui sûr, c'est que Dieu est capable de ressusciter les morts. Alléluia. Et des pierres du Jourdain, il est capable de faire lever des enfants pour Abraham. Dieu est capable de Chalon, je ne sais pas d'où, des bas-fonds peut-être même, j'en sais rien, hein, de cette ville. Il peut agir et il peut susciter des âmes et il peut les attirer à lui et puis il peut agir par le moyen et puis il peut secouer l'un et intervenir dans l'autre et nous pouvons croire que les promesses de Dieu s'accomplissent et s'accompliront si nous nous confions en lui et crions à lui. Amen, amen. Maintenant tournons-nous vers l'autre raison de l'espérance d'Abraham. La première c'était donc la résurrection et la deuxième, voilà. Il n'avait pas d'enfant, pourtant Dieu lui dit qu'il aura une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Comment cet homme de Dieu a-t-il pu croire cela? Son second grand pont, rappelons-le, c'est la puissance créatrice de Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il peut créer aussi bien que ressusciter. Voilà. Hein, donc, et quand est-ce que nous pouvons utiliser ce fait comme appui pour notre propre foi à nous? Déjà, lorsque nous réalisons, je dirais quelque part, que les grâces nécessaires manquent dans notre propre cœur. Hein, donc, si je réalise que mon cœur est endurci, que je n'ai pas l'espérance, que je n'ai pas la foi, ni la repentance, ni l'amour qu'il me faudrait avoir, eh bien, sachez, croyons, que Dieu est celui qui peut créer ces choses en nous. Alléluia. Par sa puissance. Il peut appeler les choses qui ne sont pas, et elles vont apparaître. Certains aussi, parfois, peuvent être très abattus. Leur paix s'est enfuie, leur amour est mourant, leur joie a disparu, il n'y a pas de fruits, pas d'utilité, pas de bonheur selon Christ. Alors, là aussi, croyons à celui qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Il va créer en nous un corps nouveau, un esprit nouveau. Il va mettre en nous un esprit bien disposé et nous donner ces choses que nous n'avons pas. Béni soit son nom. Alléluia. Ou lorsqu'aucun secours n'est visible. Ça aussi sont des situations. Lorsque vous n'avez plus aucun ami pour vous aider, lorsque vous ne voyez plus de moyens pour vous en sortir, alors croyez au Créateur, parce qu'il vous tracera le chemin. Si vous ne savez pas comment vous serez accompagné, comment est-ce que vous serez dirigé, délivré, eh bien Dieu tracera un chemin au milieu de la mer pour vous délivrer. Vous ne voyez plus de solution, Dieu a des quantités de solutions à sa disposition. Hein. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mettra du pain sur votre table et il ne vous laissera pas manquer de vêtements. Amen, amen. Et là encore, nous pouvons parler de l'Église lorsqu'elle passe par des jours difficiles. Hein, là aussi, croyons ce que dit le Seigneur concernant sa nouvelle création. Hein, là aussi, peut-être que vous soupirez en vous-même parce que vous dites, mais il n'y a pas de puissance pour amener les pécheurs au salut, pour amener les pécheurs à Jésus, la puissance d'en haut. Alors, vous avez l'impression que lorsque vous entrez à l'Église, vous sentez peut-être comme un arbre sec, ou comme la verge d'Aaron, vous vous souvenez, pas comme la verge d'Aaron justement, non, qui avait bourgeonné, fleuri, mûri des amandes, et puis vous avez l'impression que la même faiblesse peut se trouver chez beaucoup d'autres, alors c'est peut-être, oui, c'est certainement très triste, c'est vrai, mais supposons qu'il y ait la mort partout, hein, la mort partout, peut-être parmi les meilleurs croyants, peut-être dans le prédicateur, parmi les prophètes, parmi les assistants du culte, eh bien sachons que nous avons un Seigneur qui est capable de faire toutes choses nouvelles, qui est capable d'intervenir, qui est capable d'agir avec puissance pour créer ces bonnes dispositions, pourvu que nous puissions lui faire confiance. Amen. Et maintenant, parlons ensemble des bases de cette foi. Et la première de ces bases, c'est la résurrection du Seigneur. Lorsque vous regardez dans notre texte, un petit peu plus loin, au verset 24, « Nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. » Voilà, et qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous voyez, il croit vraiment, c'est ça qu'il met en évidence. Il ne s'occupe pas de toutes les autres résurrections, Paul, hein. Il s'occupe de la résurrection du Seigneur. Il s'appuie sur elle. sur elle seule est ce que nous pouvons et devons faire. Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. On peut traduire même à cause de notre justification, pour montrer que la rançon du péché a été payée, que la dette a été acquittée, que le pardon a été acquis et que le Seigneur nous soutiendra toujours puissamment. Alléluia. Nous voulons croire à cette puissance de la résurrection. Vous savez, si on croit à la puissance de la résurrection, tout est possible. Alors, toute maladie est guérie, toute passion est chassée, toute délivrance a lieu, tout mort peut être ressuscité. Et pourquoi ? Parce que la puissance suffisante est là. Amen. Hein ? Donc voilà. Une autre base pour notre foi, c'est la création. Là encore une fois. Si vous voulez fortifier votre foi, regardez la création autour de vous. Regardez cette nature magnifique avant que l'homme ne la détruise, bien sûr. Hein. Mais n'allez pas très loin. Regardez simplement, je ne sais pas, votre main. Hein. Considérez votre œil. Considérez toutes ces choses. Et c'est extraordinaire de perfection, d'intelligence, hein, de sagesse immense et d'amour tout en même temps. Hein. Qui est-ce qui a fait tout cela ? Qui est-ce qui a créé, je dirais, quelque part depuis le plus petit des atomes jusqu'au plus grand des mondes ? Eh bien, celui qui a fait cela, celui qui a intervenu de cette manière, eh bien, il peut aussi créer une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Il peut faire de moi un dessin dans la lumière. Hein. S'il décide de devenir potier, et il l'a décidé, effectivement, alors il peut me faire tourner sur sa roue de potier, et puis il peut faire que, à chaque tour, eh bien, une œuvre de sanctification, une œuvre de perfection s'opère pour le service du Maître. Amen. Et lorsque vous avez considéré la création, considérez maintenant la providence. La providence qui est, dirais-je, le prolongement de l'œuvre de création. Parce que Dieu, qui a fait toute chose, est aussi celui qui maintient toute chose. Celui qui maintient toute chose. Le Seigneur les garde à leur place, le Seigneur leur donne la vie, le Seigneur leur donne la force, sans quoi elles ne subsisteraient pas. On nous apprend aujourd'hui que le monde tient grâce aux lois de la nature et rien d'autre. En est-il ainsi ? Ben non, certainement pas, parce que ces lois ont besoin de la toute-puissance du Dieu vivant pour pouvoir continuer à être et à fonctionner. Elles ont véritablement besoin. Et ces lois de la nature ne sont, dirais-je, que quelque part les façons habituelles d'agir du Dieu tout-puissant. Et ça ne limite Dieu en rien. Et si Dieu a envie de passer un moment ou un autre par-dessus la loi de la nature pour faire un miracle, pour lui, c'est pas un problème. Hein? Il le fait quand il veut. Et lorsque nous voyons qu'il soutient toute chose par sa parole puissante, eh bien, c'est une base excellente pour croire à sa puissance de garder les promesses aussi pour nous. Amen. Et puis, lorsque vous avez considéré cela, considérez encore toute l'œuvre de grâce qui est en train de se faire autour de vous. Parlez au peuple de Dieu. Souvenez-vous du témoignage de l'un ou de l'autre qui vous dira, ben voilà, j'étais un ivrogne et le Seigneur est celui qui m'a converti. Hein. J'étais malade et sans espoir, mais le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a renouvelé. Mon foyer était sur la mauvaise pente et le Seigneur l'a relevé. J'étais dans la fournaise de l'épreuve et le Seigneur y a marché avec moi et il m'en a sorti. J'étais abaissé et il m'a relevé. Et vous aurez de nombreuses preuves que la grâce, de nombreuses évidences que la grâce de Dieu se poursuit continuellement et que Dieu fait de grands miracles au milieu de son peuple. Et c'est pour cela, ayez bon courage et croyez au Seigneur de la nouvelle création. Amen. Amen. Et puis considérons enfin les résultats, les conséquences d'une telle foi. C'est notre troisième point. Abraham a cru, et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, première conséquence, il a vu toutes choses comme Dieu les voit. Ça, c'est important ça. Hein ? Dieu l'a rappelé père d'une multitude parce qu'il le regardait comme tel. Et Dieu lui a parlé de sa descendance après lui et de leur nombre, et qu'il serait étranger dans un pays étranger. Pour l'œil de Dieu, Abraham était déjà ce qu'il allait devenir. Hein ? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ainsi voyez-vous que la foi a la merveilleuse propriété de regarder toutes choses comme Dieu les voit. Comme Dieu les voit, le pécheur, mort en lui-même, peut dire « et pourtant je vis ». Voilà, je vis par la grâce de Dieu, par sa puissance. Celui qui se sachant coupable, se repent, peut dire « et pourtant je suis rendu juste », puisque le Seigneur l'a dit, Eh bien, je suis rendu juste. Dieu voit la vérité des choses. Et il apprend à la foi à faire la même chose. Hein. Et si vous saisissez cette foi, eh bien, vous verrez aussi toutes choses exactement comme Dieu les voit. Et vous pourrez ainsi saisir la victoire. Amen. Et puis, une deuxième conséquence. Abraham, en conséquence de sa foi, a obéi à Dieu en toutes choses. Ça, c'est une conséquence aussi. Il a quitté son pays, sa patrie, la maison de ses pères, hein, il nous a expliqué. Il a levé les yeux, il a regardé le pays promis que Dieu lui montrait. Il l'a parcouru dans sa longueur, dans sa largeur. Et puis, à un moment, il a pris des animaux âgés de 3 ans pour faire cette alliance avec Dieu. Il n'a pas tout compris, forcément. Sur le coup, mais il a obéi. Hein. Il est allé au pays de Morija pour offrir son fils Isaac, rappelez-vous, en sacrifice. Et puis la chose a été rattrapée in extremis, mais il était prêt à obéir jusqu'au bout. Hein. Et puis il y a eu la circoncision. Certaines de ces choses pouvaient paraître bien petites. Elles pouvaient paraître de bien peu d'importance. Et pourtant, elles ont été les preuves de la foi d'Abraham. Parce qu'il a obéi dans les petites choses. Vous savez, une petite désobéissance peut entraîner une immense brèche à la foi. Lorsque j'étais moniteur de voile, j'apprenais une chose aux jeunes, surtout quand on partait sur un bateau de croisière, je leur apprenais une chose. Si vous avez une voile où il y a un petit accroc dedans, dès que vous avez un moment de libre, vous réparez cette petite accroc. Parce que s'il y a un coup de vent qui arrive, votre voile va être lacérée d'un seul coup, et à ce moment-là, eh bien, vous allez vous trouver directement dans les embêtements. Et ça, c'est une réalité aussi en ce qui concerne l'obéissance. Un petit accroc à l'obéissance, le coup dur arrive, eh bien, c'est toute la foi qui risque d'être déchirée et qui risque d'être détruite. Et quel est le résultat encore ? Le résultat aussi, une conséquence, c'est qu'Abraham a joui de la promesse. Abraham a joui de la promesse. On peut réfléchir, Abraham en train de rire. Abraham, il est marqué qu'il a ri. Abraham a ri. Et Sarah aussi a ri. Mais Sarah a ri pour de mauvaises raisons, de la mauvaise façon. Et Abraham a ri de la bonne façon. Hein, ce n'est pas interdit à un croyant de rire. Bien au contraire. Hein, un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui est obligé de pleurer. Hein. C'est quelqu'un, il a des raisons de se réjouir. Alléluia. Sarah, elle, a ri par incrédulité. Rappelez-vous, elle dit « Oh, mais c'est pas possible, ça n'arrivera pas, moi, une vieille femme, avoir un enfant, n'importe quoi. » Voilà. Donc, l'envoyé de Dieu l'a reprise à ce moment-là. Elle a eu la trouille ce jour-là. Hein. C'est marqué d'ailleurs, hein, parce qu'elle avait ri dans son coin et elle a été dévoilée. Mais ce qu'Abraham, lui, il a ri parce qu'il a réalisé ce qui était en train de se passer. Et il a commencé à rire de joie et de plaisir. Il était vraiment, et c'est quelque chose qui a fait du bien. Il a cru qu'il serait le père d'un grand nombre de nations et il a ri et ri encore. C'était une fontaine de joie et de bonheur pour lui. Et la marche par la foi, si vous croyez, eh bien, vous aurez aussi ce bonheur et vous aurez aussi cette joie. Alléluia. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. C'est la réalité. C'est pas de la fiction. C'est pas la méthode Coué. C'est la réalité. Et le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Et puis, à cause de cela, enfin, quatrième dernière conclusion, Abraham a été compté comme juste. A été considéré comme juste, non pas par les hommes, d'ailleurs ce n'est pas l'important, mais par Dieu. Mais par Dieu, hein, à cause de sa foi. Et Abraham a été appelé ami de Dieu. Hein, donc il a pratiqué ensuite, donc il a été mis dans une position de justice par la grâce du Seigneur. Et puis je dirais qu'il a pratiqué des œuvres de justice qui lui ont attiré aussi une grande récompense et une grande bénédiction de la part de Dieu. Et tout ceci par la foi. Alors que le Seigneur bénisse chacune et chacun d'entre nous pour que nous puissions nous aussi saisir ces précieux et solides crampons de la foi. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Eh bien, on veut prier encore. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour la prière. Merci pour les exaucements. Merci pour la foi si précieuse, Jésus, que tu suscites et que tu fortifies dans nos âmes à chacun. Merci parce que c'est vrai combien il est merveilleux de savoir que tu es le Dieu qui ressuscite les morts, que tu es le Dieu qui crée encore à partir de rien. Et à cause de cela, Seigneur, nous avons toute raison de nous confier en ton précieux nom. Sois glorifié, mon Dieu. Amen, alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Amen, béni soit Dieu. Pour conclure, nous avons quelques annonces. La prédication en ligne, donc, c'est vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. L'évangélisation dans les villages doit se tenir ce samedi-ci, donc je vous rappelle, dans la limite des 10 km, mais donc rendez-vous à 14h30 pour ceux qui veulent y participer. Donc c'est toujours de la boîte aux lettres qu'on fait pour l'instant, et c'est vrai que c'est bon de nécessaire de prier pour le fruit de ce travail. Le culte dimanche à 8h30, puis à 10h45. Inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone si certains veulent s'inscrire auprès de Jean-Baptiste à la fin de, de cette réunion, c'est, voilà, plutôt que vers moi. Merci d'avance. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des activités de jeunesse qui doivent se dérouler la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Et vous pouvez voir Jean-Baptiste aussi pour tout renseignement sur la participation et le déroulement de ces moments, de ce projet. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne. Gloire à son bon nom.